Retrouvez la chronique Sortie Voyage avec Aurélie Reich.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin. J'ai le grand plaisir de retrouver notre globe-trotteuse favorite. C'est Aurélie Reich qui est aujourd'hui mon invitée pour parler de destination voyage et nous faire un petit peu rêver parce qu'elle revient de destinations assez exceptionnelles, inattendues, fascinantes. Et on va commencer cette série avec le Groenland où Aurélie s'est rendue cet été. Aurélie, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Le Groenland, une destination à laquelle on ne pense pas nécessairement immédiatement lorsqu'il s'agit de planifier ses vacances, parce que peut-être surtout pour l'été et surtout lorsqu'on est au Canada, on recherche assez souvent, je dois le dire, en tout cas je parle peut-être un petit peu trop de moi, mais je recherche souvent davantage le soleil, et qui dit Groenland disons dans l'imaginaire collectif plutôt du froid. Parle-nous de ton expérience du Groenland. C'est, je crois, la plus grande île du monde, et évidemment la calotte glaciaire recouvre une grande partie du territoire. Est-ce que tu as été sous le charme?
Complètement ensorcelée. Je sais que avant de partir, je disais aux gens, ben regarde, là, je vais partir pour le Groenland. Puis exactement ce que tu disais, hein, les gens me disaient, mais enfin, quelle idée, il se passe rien, il va faire froid, il y aura rien à voir, rien à faire, c'est l'enfer. Puis au contraire, moi, j'avais cette impression que il y avait, tu sais, quand on te dit qu'il y a rien, tu as l'impression qu'au contraire, il y a tout. Et c'est exactement ce que j'ai pu découvrir là-bas. D'abord, une impression absolument extraordinaire de se sentir déconnecté de tout et du coup en paix. Parce qu'effectivement, ben, pas de réseaux sociaux, pas de satellites, pas de néons, pas d'affiches, pas de bruit, pas de trafic. Donc, une grande sérénité, un grand calme et une nature grandiose hein, qui se déroule devant tes yeux à perte de vue. Donc, j'ai été extrêmement chanceuse de pouvoir faire cette aventure-là, qui s'est essentiellement faite sur la pointe sud du Groenland,
D'accord.
parce qu'évidemment, c'est immense, et puis j'avais pas un temps extensible pour en faire le tour.
Alors, le Groenland, évidemment, se situe au nord de l'hémisphère, mais pas si loin que ça de chez nous. Peut-être peux-tu nous rappeler combien de temps est-ce qu'on met pour s'y rendre? Tu es allé en avion, j'imagine?
Oui, alors en fait, on se dirige sur l'Islande d'abord.
Oui.
Ça sera comment s'appelle l'aéroport de transit. Et de
D'accord.
là, on va prendre un petit avion pour l'arrivée sur la pointe sud du Groenland. Et je tiens à préciser, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, une façon de visiter cet endroit qui est vraiment fameuse et puis très plaisante et très réjouissante, c'est de prendre un bateau pour pouvoir rentrer dans les fjords et partir à la découverte de villages inuits qui sont extrêmement isolés les uns des autres. Dans des endroits où on ne peut y aller que finalement en bateau ou en avion. Moi j'ai eu la chance de partir avec une compagnie qui s'appelle Quack Expeditions et puis qui est spécialisée dans toutes les destinations arctiques polaires. Et
Ouais.
donc ce sont des bateaux qui sont bon, robustes mais de petite taille. Ce qui permet de pouvoir s'infiltrer dans des passages ou dans des endroits très étroits, avec une capacité, je pense, qui irait jusqu'à 200 passagers. Là, cette fois-ci, on était 175. Et donc, on peut aller dans plusieurs fjords ou aller vraiment à l'intérieur des terres. Et une fois qu'on arrive à slalomer entre les côtes ou entre les icebergs, parce qu'il y en a beaucoup, à ce moment-là, on met canoë à l'eau, kayak. Et on découvre finalement cette terre par la mer, par les airs, parce qu'ils ont également un hélicoptère. Donc ça nous permet d'aller directement, par exemple, sur la calotte glaciaire ou encore pour pouvoir faire des randonnées, ou encore dans des campements tenus par des Inuits, et où on peut passer finalement la nuit si on le souhaite pour une immersion plus complète, écouter les légendes, goûter leur nourriture, partir avec eux à la pêche parce que c'est au bord d'un lac intérieur. Et tout ça contribue à faire une expérience très riche, unique. Alors bien sûr, bon, ceux qui n'ont pas envie de faire toutes ces expéditions pour une raison X ou Y, soit âge ou comment ça s'appelle, ou physique, peuvent rester à bord. Et l'équipe qui est à bord comporte beaucoup de personnes qui sont extrêmement pointues dans différents domaines, que ce soit Inuit, on avait des Inuits à bord, ou que ce soit géologie, ou faune, ou flore. Donc on apprend beaucoup de choses, même si on ne fait pas partie des petites expéditions, et on a tout le pont du bateau pour pouvoir observer des merveilles.
Une véritable quête de nature, de ressourcement aussi, puisque tu le disais, l'isolation fait partie en quelque sorte du package. Et puis, une découverte d'une nouvelle culture. Là, la culture inuite est fascinante, mais peu connue. Est-ce que tu as appris quelques anecdotes que tu voudrais nous partager?
Oui, alors par exemple, ils n'ont pas évidemment de carte pour se repérer. Donc quand ils prennent des points de repère dans la nature, mais ils ne peuvent pas dire le rocher qui est au nord parce qu'il y en a tellement. Alors ils vont regarder un rocher par exemple une partie se serait effondrée, et à ça ils vont attacher une légende et ils te diront bah là c'est le rocher où deux chamans se sont battus. Et les traces de celui qui s'est agrippé restent là. Alors, ils vont vraiment déterminer des lieux par rapport aux légendes. J'ai remarqué que dans cette culture-là, comme dans beaucoup de cultures natives, on a un fort recours aux récits et aux légendes pour faire avancer la culture, pour des traditions, pour vivre dans l'élément, dans la nature. Par exemple, lorsqu'ils chassent, parce que bon, il y a quelques ours qui sont là, mais il y a aussi des oiseaux, et ils mangent tout ce qu'il y a à manger, et tout le reste, ils le restituent à la terre, parce qu'ils disent que la terre leur a donné ça et a besoin, des restes des eaux pour reproduire encore. Et même chose avec la mer. Donc j'ai bien été, j'allais dire, bercée, trimballée par des contes et des légendes. Bien sûr, revient aussi la culture profonde, la culture inuit profonde qui a été mise de côté pendant un certain temps parce que les Occidentaux sont venus et puis ont imposé un seul dieu. Décidé que les tatouages n'étaient pas convenables. Donc aujourd'hui, on recommence, enfin, les Inuits recommencent à se tatouer les mains, le visage pour certaines personnes. Les objets traditionnels redeviennent importants. Alors on a des couteaux très très particuliers en forme de demi-lune qu'utilisent les femmes pour dépecer les animaux. Elle le porte aussi en attribut, en bijoux. On a des statues qui représentaient à l'époque les mauvais esprits, mais qui aujourd'hui sont là justement pour empêcher les choses néfastes de rentrer dans chez soi. Donc tout ce folklore revient et s'instaure dans le quotidien des Inuits, et puis c'est tant mieux. Et ça aussi, je pense que l'avantage, alors bon, j'ai pas de comparaison puisque c'est ma première expérience dans le Groenland. J'imagine qu'il y a plusieurs compagnies de navigation, mais l'avantage de travailler avec une compagnie comme Quark Expedition, c'est que ils ont fait affaire avec des Inuits pour être d'abord pour s'assurer qu'ils avaient le droit de venir dans ces lieux isolés où eux vivaient, Et puis leur dire, ben voilà, on vous propose de mieux faire connaître votre culture par des voyageurs. Est-ce que vous êtes tenté? Qu'est-ce que vous aimeriez leur montrer? Et de ce fait, on a quand même un rapport privilégié parce que pas tous ne parlent l'anglais, pas tous ont envie de voir des gens. Je sais que, par exemple, dans certains endroits sud-est, dans certains fjords, ils ne veulent pas voir les touristes de masse venir. Donc, c'est vraiment que des petits bateaux qu'ils acceptent et certains jours.
Oui, il faut peut-être rappeler aussi que cette grande île n'est peuplée que de guère plus de 56 000 habitants, je crois. C'est donc aussi ce qui fait partie de son charme, j'imagine, que d'être une grande étendue assez peu peuplée. On ne va pas au Groenland pour ces villes. Malgré tout, il y a quelques villages de charme dont on peut retrouver des photos sur le net. Je suis en train de parcourir en te parlant des photos qui donnent vraiment envie d'aller s'y rendre. Est-ce que tu as fait quelques escales dans certains de ces villages?
Oui, alors dans un seul, je crois, un seul village à proprement parler. Après, je suis allée camper et je crois que c'est ce que j'ai encore préféré dans des yourtes près d'un lac de montagne. Je crois que c'était le lac où il n'y a pas de vent et pourtant il y avait beaucoup de vent. C'est vrai ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté qui fait rêver dans le sens où il n'y a rien qui vient obstruer l'horizon. Et le seul bruit que tu peux entendre, finalement, c'est le bruit, tu sais, de l'eau sur les rochers. Donc, pour nous, citadins qui sommes sans arrêt sollicités, c'est très, très reposant. Après, oui, je me faisais la réflexion, comment ça se passe s'il y a une urgence médicale, s'il y a une tempête, s'il y a une pénurie de quelque chose. Puis, quand j'ai posé la question, ben, non, ils disent, bah, on s'arrange, il y a toujours un bateau, il y a toujours moyen d'aller quelque part, de demander de l'aide. Donc je crois que c'est une façon aussi pour nous de voir qu'il y a d'autres façons de gérer le stress, hein, les imprévus,
Je
et
pense
ça
qu'on a
fait rien.
compris que le Groenland est une destination qui n'est peut-être pas pour tout le monde, mais qui en tout cas va bien au-delà de simples vacances. Là, c'est véritablement une expérience, presque une quête philosophique aussi que tu sembles avoir vécue.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, sans parler des personnes qui, elles, effectivement, ont un rapport aux éléments et à la nature absolument extraordinaire et l'intègrent dans leur vie, quand on fait l'expérience de marcher sur une croûte glaciaire au bord de lac, il n'y a rien que du lichen autour, hein, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, tellement c'est sec, c'est très très sec. Prendre un kayak et puis slalomer entre les icebergs, et puis voir pas loin de soi, sous la surface, un phoque qui essaie de jouer avec nous. Je te dis, on est vraiment au ras de l'eau, on est tout petit par rapport à ces monstrueux cubes de glaçons qui changent de couleur en fonction de leur âge. Plus
Alors
il y a de l'air
justement,
dedans,
sur cet
ça devient bleu.
aspect-là, Aurélie, ce qui m'intéresse aussi, c'est bien entendu l'aspect environnemental qui, je crois, est très observable. Les changements climatiques sont observables au Groenland peut-être plus qu'ailleurs parce que on en parle beaucoup, les glaces fondent. Est-ce que tu as été marqué par ce phénomène? Est-ce que tu as pu t'en rendre compte personnellement ou en tout cas, est-ce que tu as pu discuter avec une partie de la population qui t'aurait fait part de ces changements climatiques.
Alors, oui, bon, moi j'avais un cliché en tête. Je pensais que qui dit Groenland dit glace partout. Donc je pensais vraiment arriver sur un glaçon. Pas du tout. Il y a beaucoup de terre apparente, c'est-à-dire qu'il y a une récession, un recul de la glace, hein, à l'intérieur. Donc c'est vrai que pour se rendre sur une croûte glaciaire, ben, soit il faut quand je dis des petites embarcations, c'est canoë, zodiaque, c'est même pas le gros bateau pour aller, et ça prend beaucoup de temps jusqu'à la croûte glaciaire qui arriverait dans l'eau, soit avoir un hélicoptère qui nous dépose dessus. Et après, ben c'est très étrange. Oui, les gens disent que c'est de façon dramatique comment ça s'appelle, le réchauffement climatique fait fondre les glaces, fait bouger les plaques glaciaires. Quand j'y étais, j'avais peu par rapport à ce que j'avais en tête, finalement peu de gros icebergs. Ils étaient flottants et j'en ai vu se retourner, j'en ai vu se casser. Donc, j'ai vraiment appréhendé tout de suite la vulnérabilité de cet écosystème.
Et
Maintenant, je
les
sais.
températures sont de quel ordre là? Tu es allé en début août ou fin juillet, début août, c'est
Oui,
ça?
c'est ça. Mais écoute, non, elles étaient tout à fait convenables. C'est-à-dire qu'on avait entre 9 avec des 9 degrés Celsius et des pointes à 20, 19-20. Donc rien de tragique vraiment. Alors bon, oui, quand tu es en mer ou quand tu prends un anorak, peut-être un bonnet, mais très rapidement, si tu marches, tu as très chaud, tu transpires, donc on n'avait
C'est la
pas
bonne
besoin d'un
saison, c'est
équipement.
le meilleur moment peut-être pour une première approche du Groenland. Est-ce qu'il y a d'autres saisons qui sont propices à visiter le Groenland?
Oui, alors moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est que y aller en été, on a des jours sans fin.
Ah oui, il y a
On a le
cet
soleil
aspect-là
des
aussi.
momies. Donc
Ouais.
c'est merveilleux parce que c'est ça. On a l'impression de vivre dans l'infini. Je sais que quand on était au campement, on parlait, puis normalement le dame Inuit avait peut-être besoin de se reposer. Elle dit bon ben je vous revois dans quelques heures. J'ai ben non, demain. Elle me fait non non dans quelques heures vraiment. C'était minuit passé depuis longtemps et on s'en rend pas compte. Maintenant, je pense que fin septembre, début octobre, ça va être magnifique pour les aurores boréales, parce que n'ayant aucune source lumineuse autour, on doit les voir absolument parfaitement et ça doit être un spectacle inoubliable.
La nature dans toute sa pureté, les aurores boréales, les fjords, les glaciers, le soleil de minuit, voilà quelques-uns des atouts du Groenland. Merci Aurélie Reich de nous avoir
Voilà, et
partagé.
encore une fois, je conseille vraiment. Alors, je pense qu'on peut le faire à pied, peut-être pas sur cette portion-là, peut-être pas de façon extensive, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un petit endroit avec un campement. Ça sera certainement plus route. Mais si jamais on prend voilà, il faudrait quand même s'assurer de prendre une compagnie de croisière qui soit spécialisée là-dedans, qui sache naviguer au milieu de tout ça, respectueuse de l'environnement, bien sûr, mais qui permette vraiment de rentrer dans les fjords. Et c'est vrai que le bateau qui s'appelle Ultramarine de Quark Expedition, c'était vraiment impeccable pour ça. Donc, à retenir et vraiment à privilégier pour avoir cette possibilité d'en voir un maximum, maintenant limité par nos emplois du temps divers et variés.
Aurélie Reich sur les ondes de Choc FM 105.1, spécialiste, journaliste, spécialiste des voyages. Merci beaucoup pour cette belle destination du Groenland. On se retrouve très vite pour une autre destination diamétralement opposée à la suite dans quelques semaines sur Choc.
Merci Guillaume, au revoir.